Marius, livre cinquième. Excellence du malheur. Chapitre 1. Marius indigent. La vie devint sévère pour Marius. Manger ses habits et sa montre, ce n'était rien. Il mangea de cette chose inexprimable qu'on appelle de la vache enragée. Chose horrible qui contient les jours sans pain, les nuits sans sommeil, les soirs sans chandelle, l'âtre sans feu, les semaines sans travail, l'avenir sans espérance, l'habit percé au coude, le vieux chapeau qui fait rire les jeunes filles, la porte qu'on trouve fermée le soir parce qu'on ne paie pas son loyer, l'insolence du portier et du gargotier, les ricanements des voisins, les humiliations, la dignité refoulée, les besognes quelconques acceptées, les dégoûts, l'amertume, l'accablement. Marius apprit comment on dévore tout cela et comment ce sont souvent les seules choses qu'on ait à dévorer. À ce moment de l'existence où l'homme a besoin d'orgueil parce qu'il a besoin d'amour, il se sentit moqué parce qu'il était mal vêtu et ridicule parce qu'il était pauvre. À l'âge où la jeunesse vous gonfle le cœur d'une fierté impériale, il abaissa plus d'une fois ses yeux sur ses bottes trouées et il connut les hontes injustes et les rougeurs poignantes de la misère. Admirable et terrible épreuve dont les faibles sortent infâmes, dont les forts sortent sublimes. Creuser où la destinée jette un homme toutes les fois qu'elle veut avoir un gredin ou un demi-dieu. Car il se fait beaucoup de grandes actions dans les petites luttes. Il y a des bravoures opiniâtres et ignorées qui se défendent pied à pied dans l'ombre contre l'envahissement fatal des nécessités et des turpitudes. Nobles et mystérieux triomphes qu'aucun regard ne voit, qu'aucune renommée ne paie, qu'aucune fanfare ne salue. La vie, le malheur, l'isolement, l'abandon, la pauvreté sont des champs de bataille qui ont leurs héros. Héros obscurs, plus grands parfois que les héros illustres. De fermes et rares natures sont ainsi créées. La misère, presque toujours marâtre, est quelquefois mère. Le dénuement enfante la puissance d'âme et d'esprit. La détresse est nourrice de la fierté. Le malheur est un bon lait pour les magnanimes. Il y eut un moment dans la vie de Marius où il balayait son palier, où il achetait un sou de fromage de brie chez la fruitière, où il attendait que la brune tombât pour s'introduire chez le boulanger et y acheter un pain qu'il emportait furtivement dans son grenier, comme s'il l'eût volé. Quelquefois, on voyait se glisser dans la boucherie du coin, au milieu des cuisinières goguenardes qui le goudoyaient, un jeune homme gauche portant des livres sous son bras, qui avait l'air timide et furieux, qui en entrant ôtait son chapeau de son front où perlait la sueur, faisait un profond salut à la bouchère étonnée, un autre salut au garçon boucher, demandait une côtelette de mouton, la payait 6 ou 7 sous, l'enveloppait de papier, la mettait sous son bras entre 2 livres et s'en allait. C'était Marius. Avec cette côtelette qu'il faisait cuire lui-même, il vivait 3 jours. Le premier jour, il mangeait la viande. Le second jour, il mangeait la graisse. Le troisième jour, il rongeait l'os. À plusieurs reprises, la tante Gillenormand fit des tentatives et lui adressa les 60 pistoles. Marius les renvoya constamment, en disant qu'il n'avait besoin de rien. Il était encore en deuil de son père quand la révolution que nous avons racontée s'était faite en lui. Depuis lors, il n'avait plus quitté les vêtements noirs. Cependant, ses vêtements le quittèrent. Un jour vint où il n'eut plus d'habit. Le pantalon allait encore. Que faire ? Courfeyrac, auquel il avait de son côté rendu quelques bons offices, lui donna un vieil habit. Pour 30 sous, Marius le fit retourner par un portier quelconque, et ce fut un habit neuf. Mais cet habit était vert. Alors Marius ne sortit plus qu'après la chute du jour. Cela faisait que son habit était noir. Voulant toujours être en deuil, il se vêtissait de la nuit. À travers tout cela, il se fit recevoir avocat. Il était censé habiter la chambre de Courfeyrac, qui était décente, et où un certain nombre de bouquins de droit, soutenus et complétés par des volumes de romans dépareillés, figuraient la bibliothèque voulue par les règlements. Il se faisait adresser ses lettres chez Courfeyrac. Quand Marius fut avocat, il en informa son grand-père par une lettre froide, mais pleine de soumission et de respect. Monsieur Gillenormand prit la lettre avec un tremblement, la lut et la jeta, déchirée en quatre, au panier. 2 ou 3 jours après, Mademoiselle Gillenormand entendit son père, qui était seul dans sa chambre et qui parlait tout haut. Cela lui arrivait chaque fois qu'il était très agité. Elle prêta l'oreille, le vieillard disait: « Si tu n'étais pas un imbécile, tu saurais qu'on ne peut pas être à la fois baron et avocat. » Chapitre 2. Marius pauvre. Il en est de la misère comme de tout. Elle arrive à devenir possible. Elle finit par prendre une forme et se composer. On végète, c'est-à-dire on se développe d'une certaine façon chétive, mais suffisante à la vie. Voici de quelle manière l'existence de Marius Pontmercy s'était arrangée. Il était sorti du plus étroit. Le défilé s'élargissait un peu devant lui. À force de labeur, de courage, de persévérance et de volonté, il était parvenu à tirer de son travail environ 700 francs par an. Il avait appris l'allemand et l'anglais. Grâce à Courfeyrac, qu'il avait mis en rapport avec son ami le libraire, Marius remplissait dans la littérature librairie le modeste rôle d'utilité. Il faisait des prospectus, traduisait des journaux, annotait des éditions, compilait des biographies, etc. Produit net, bon an, mal an, 700 francs. Il en vivait. Pas mal. Comment ? Nous l'allons dire. Marius occupait dans la masure Gorbeau, moyennant le prix annuel de 30 francs, un taudis sans cheminée, qualifié cabinet, où il n'y avait en fait de meubles que l'indispensable. Ces meubles étaient à lui. Il donnait 3 francs par mois à la vieille principale locataire pour qu'elle vînt balayer le taudis et lui apportait chaque matin un peu d'eau chaude, un œuf frais et un pain d'un sou. De ce pain et de cet œuf, il déjeunait. Son déjeuner variait de 2 à 4 sous, selon que les œufs étaient chers ou bon marché. À 6 heures du soir, il descendait rue Saint-Jacques, dînait chez Rousseau, vis-à-vis Basset, le marchand d'estampes du coin de la rue des Mathurins. Il ne mangeait pas de soupe. Il prenait un plat de viande de 6 sous, un demi-plat de légumes de 3 sous et un dessert de 3 sous. Pour 3 sous, du pain à discrétion. Quant au vin, il buvait de l'eau. En payant au comptoir, où siégeait majestueusement Madame Rousseau, à cette époque, toujours grasse et encore fraîche, il donnait un sou au garçon, et Madame Rousseau lui donnait un sourire. Puis il s'en allait. Pour 16 sous, il avait eu un sourire et un dîner. Ce restaurant Rousseau, où l'on vidait si peu de bouteilles et tant de carafes, était un calmant plus encore qu'un restaurant. Il n'existe plus aujourd'hui. Le maître avait un beau surnom. On l'appelait Rousseau l'Aquatique. Ainsi, déjeuner 4 sous, dîner 16 sous, sa nourriture lui coûtait 20 sous par jour, ce qui faisait 365 francs par an. Ajoutez les 30 francs de loyer et les 36 francs à la vieille, plus quelques menus frais, pour 450 francs, Marius était nourri, logé et servi. Son habillement lui coûtait 100 francs, son linge 50 francs, son blanchissage 50 francs. Le tout ne dépassait pas 650 francs. Il lui restait 50 francs. Il était riche. Il prêtait dans l'occasion 10 francs à un ami. Courfeyrac avait pu lui emprunter une fois 60 francs. Quant au chauffage, n'ayant pas de cheminée, Marius l'avait simplifié. Marius avait toujours 2 habillements complets, l'un vieux pour tous les jours, l'autre neuf pour les occasions. Les 2 étaient noirs. Il n'avait que 3 chemises, l'une sur lui, l'autre dans sa commode, la 3e chez la blanchisseuse. Il les renouvelait à mesure qu'elles s'usaient. Elles étaient habituellement déchirées, ce qui lui faisait boutonner son habit jusqu'au menton. Pour que Marius en vînt à cette situation florissante, il avait fallu des années. Années rudes, difficiles, les unes à traverser, les autres à gravir. Marius n'avait point failli un seul jour. Il avait tout subi, en fait de dénuement. Il avait tout fait, excepté des dettes. Il se rendait ce témoignage que jamais il n'avait dû un sou à personne. Pour lui, une dette, c'était le commencement de l'esclavage. Il se disait même qu'un créancier est pire qu'un maître. Car un maître ne possède que votre personne, un créancier possède votre dignité et peut la souffleter. Plutôt que d'emprunter, il ne mangeait pas. Il avait eu beaucoup de jours de jeûne. Sentant que toutes les extrémités se touchent et que, si l'on y prend garde, l'abaissement de fortune peut mener à la bassesse d'âme, il veillait jalousement sur sa fierté. Telle formule ou telle démarche, qui dans toute autre situation lui eût paru déférence, lui semblait platitude et il se redressait. Il ne hasardait rien, ne voulant pas reculer. Il avait sur le visage une sorte de rougeur sévère. Il était timide jusqu'à l'âpreté. Dans toutes ces épreuves, il se sentait encouragé et quelquefois même porté par une force secrète qu'il avait en lui. L'âme aide le corps et à de certains moments le soulève. C'est le seul oiseau qui soutienne sa cage. À côté du nom de son père, un autre nom était gravé dans le cœur de Marius, le nom de Thénardier. Marius, dans sa nature enthousiaste et grave, environnait d'une sorte d'auréole l'homme auquel, dans sa pensée, il devait la vie de son père, cet intrépide sergent qui avait sauvé le colonel au milieu des boulets et des balles de Waterloo. Il ne séparait jamais le souvenir de cet homme du souvenir de son père. Et il les associait dans sa vénération. C'était une sorte de culte à 2 degrés. Le grand autel pour le colonel, le petit pour Thénardier. Ce qui redoublait l'attendrissement de sa reconnaissance, c'était l'idée de l'infortune où il savait Thénardier tomber et englouti. Marius avait appris à Montfermeil la ruine et la faillite du malheureux aubergiste. Depuis, il avait fait des efforts inouïs pour saisir sa trace et tâcher d'arriver à lui dans ce ténébreux abîme de la misère où Thénardier avait disparu. Marius avait battu tout le pays. Il était allé à Chelles, à Bondy, à Gournay, à Nogent, à Lagny. Pendant 3 années, il s'y était acharné, dépensant à ses explorations le peu d'argent qu'il épargnait. Personne n'avait pu lui donner de nouvelles de Thénardier. On le croyait passé en pays étranger. Ses créanciers l'avaient cherché aussi, avec moins d'amour que Marius, mais avec autant d'acharnement, et n'avaient pu mettre la main sur lui. Marius s'accusait, et s'en voulait presque de ne pas réussir dans ses recherches. C'était la seule dette que lui eût laissée le colonel, et Marius tenait à honneur de la payer. comment, pensait-il, quand mon père gisait mourant sur le champ de bataille, Thénardier, lui, a bien su le trouver à travers la fumée et la mitraille, et l'emporter sur ses épaules, et il ne lui devait rien cependant. Et moi, qui dois tant à Thénardier, je ne saurais pas le rejoindre dans cette ombre où il agonise, et le rapporter à mon tour de la mort à la vie. Oh, je le retrouverai. Pour retrouver Thénardier, en effet, Marius eût donné un de ses bras, et pour le tirer de la misère, tout son sang. Revoir Thénardier, rendre un service quelconque à Thénardier, lui dire « Vous ne me reconnaissez pas ? Eh bien moi, je vous connais, je suis là, disposez de moi. » C'était le plus doux et le plus magnifique rêve de Marius. Chapitre 3. Marius grandit. À cette époque, Marius avait 20 ans. Il y avait 3 ans qu'il avait quitté son grand-père. On était resté dans les mêmes termes de part et d'autre, sans tenter de rapprochement et sans chercher à se revoir. D'ailleurs, se revoir, à quoi bon? Pour se heurter? Lequel eût eu raison de l'autre? Marius était le vase d'airain, mais le père Gillenormand était le pot de fer. Disons-le, Marius s'était mépris sur le cœur de son grand-père. Il s'était figuré que M. Gillenormand ne l'avait jamais aimé, et que ce bonhomme bref, dur et riant, qui jurait, criait, tempêtait et levait la canne, n'avait pour lui tout au plus que cette affection à la fois légère et sévère des gérontes de comédie. Marius se trompait. Il y a des pères qui n'aiment pas leurs enfants. Il n'existe point d'aïeul qui n'adore son petit-fils. Au fond, nous l'avons dit, M. Gillenormand idolâtrait Marius. Il l'idolâtrait à sa façon, avec accompagnement de bourrades et même de gifles. Mais cet enfant disparu, il se sentit un vide noir dans le cœur. Il exigea qu'on ne lui en parlât plus, en regrettant tout bas d'être si bien obéi. Dans les premiers temps, il espéra que ce bonapartiste, ce jacobin, ce terroriste, ce septembriseur reviendrait. Mais les semaines se passèrent, les mois se passèrent, les années se passèrent. Au grand désespoir de M. Gillenormand, le buveur de sang ne reparut pas. « Je ne pouvais pourtant pas faire autrement que de le chasser !» se disait le grand-père. Et il se demandait « Si c'était à refaire, le referais-je » Son orgueil sur le champ répondait oui, mais sa vieille tête, qu'il hochait en silence, répondait tristement non. Il avait ses heures d'abattement. Marius lui manquait. Les vieillards ont besoin d'affection comme de soleil. C'est de la chaleur. Quelle que fût sa forte nature, l'absence de Marius avait changé quelque chose en lui. Pour rien au monde, il n'eût voulu faire un pas vers ce petit drôle. Mais il souffrait. Il ne s'informait jamais de lui, mais il y pensait toujours. Il vivait de plus en plus retiré au Marais. Il était encore, comme autrefois, gai et violent, mais sa gaieté avait une dureté convulsive, comme si elle contenait de la douleur et de la colère. Et ses violences se terminaient toujours par une sorte d'accablement doux et sombre. Il disait quelquefois « Oh, s'il revenait, quel bon soufflet je lui donnerais !» Quant à la tante, elle pensait trop peu pour aimer beaucoup. Marius n'était plus pour elle qu'une espèce de silhouette noire et vague, et elle avait fini par s'en occuper beaucoup moins que du chat ou du perroquet qu'il est probable qu'elle avait. Ce qui accroissait la souffrance secrète du père Gillenormand, c'est qu'il la renfermait tout entière et n'en laissait rien deviner. Son chagrin était comme ces fournaises nouvellement inventées qui brûlent leur fumée. Quelquefois, il arrivait que des officieux malencontreux lui parlaient de Marius et lui demandaient « Que fait ou que devient, monsieur, votre petit-fils ?» Le vieux bourgeois répondait en soupirant s'il était trop triste ou en donnant une chiquenaude à sa manchette s'il voulait paraître gai. « Monsieur le baron Pontmercy plaidaille dans quelque coin. » pendant que le vieillard regrettait, Marius s'applaudissait. Comme à tous les bons cœurs, le malheur lui avait ôté l'amertume. Il ne pensait à M. Gillenormand qu'avec douceur, mais il avait tenu à ne plus rien recevoir de l'homme qui avait été mal pour son père. C'était maintenant la traduction mitigée de ses premières indignations. En outre, il était heureux d'avoir souffert, et de souffrir encore. C'était pour son père. La dureté de sa vie le satisfaisait et lui plaisait. Il se disait avec une sorte de joie que c'était bien le moins, que c'était une expiation, que sans cela il eût été puni, autrement et plus tard, de son indifférence impie pour son père et pour un tel père, qu'il n'aurait pas été juste que son père eût eu toute la souffrance et lui rien. Qu'était-ce d'ailleurs que ses travaux et son dénûment comparés à la vie héroïque du colonel? Qu'enfin, sa seule manière de se rapprocher de son père et de lui ressembler, c'était d'être vaillant contre l'indigence, comme lui avait été brave contre l'ennemi. Et que c'était là, sans doute, ce que le colonel avait voulu dire par ce mot « Il en sera digne ». Parole que Marius continuait de porter, non sur sa poitrine, les cris du colonel ayant disparu, mais dans son cœur. Et puis, le jour où son grand-père l'avait chassé, il n'était encore qu'un enfant. Maintenant, il était un homme. Il le sentait. La misère, insistons-y, lui avait été bonne. La pauvreté dans la jeunesse, quand elle réussit, a cela de magnifique qu'elle tourne toute la volonté vers l'effort et toute l'âme vers l'aspiration. La pauvreté met tout de suite la vie matérielle à nu et la fait hideuse, de là d'inexprimables élans vers la vie idéale. Le jeune homme riche a 100 distractions brillantes et grossières, les courses de chevaux, la chasse, les chiens, le tabac, le jeu, les bons repas et le reste. Occupation des bas côtés de l'âme, aux dépens des côtés hauts et délicats. Le jeune homme pauvre se donne de la peine pour avoir son pain. Il mange. Quand il a mangé, il n'a plus que la rêverie. Il va au spectacle gratis que Dieu donne. Il regarde le ciel, l'espace, les astres, les fleurs, les enfants, l'humanité dans laquelle il souffre, la création dans laquelle il rayonne. Il regarde tant l'humanité qu'il voit l'âme. Il regarde tant la création qu'il voit Dieu. Il rêve et il se sent grand. Il rêve encore et il se sent tendre. De l'égoïsme de l'homme qui souffre, il passe à la compassion de l'homme qui médite. Un admirable sentiment éclot en lui. L'oubli de soi et la pitié pour tous. En songeant aux jouissances sans nombre que la nature offre, donne et prodigue aux âmes ouvertes et refuse aux âmes fermées, il en vient à plaindre, lui, millionnaire de l'intelligence, les millionnaires de l'argent. Toute haine s'en va de son cœur à mesure que toute clarté entre dans son esprit. D'ailleurs, est-il malheureux? Non. La misère d'un jeune homme n'est jamais misérable. Le premier jeune garçon venu, si pauvre qu'il soit, avec sa santé, sa force, sa marche vive, ses yeux brillants, son sang qui circule chaudement, ses cheveux noirs, ses joues fraîches, ses lèvres roses, ses dents blanches, son souffle pur, fera toujours envie à un vieil empereur. Et puis, chaque matin, il se remet à gagner son pain. Et tandis que ses mains gagnent du pain, son épine dorsale gagne de la fierté, son cerveau gagne des idées. Sa besogne finie, il revient aux extases ineffables, aux contemplations, aux joies. Il vit les pieds dans les afflictions, dans les obstacles, sur le pavé, dans les ronces, quelquefois dans la boue, la tête dans la lumière. Il est ferme, serein, doux, paisible, attentif, sérieux, content de peu, bienveillant, et il bénit Dieu de lui avoir donné ces deux richesses, qui manquent à bien des riches, le travail qui le fait libre et la pensée qui le fait digne. C'était là ce qui s'était passé en Marius. Il avait même, pour tout dire, un peu trop versé du côté de la contemplation. Du jour où il était arrivé à gagner sa vie, à peu près sûrement, il s'était arrêté là, trouvant bon d'être pauvre et retranchant au travail pour donner à la pensée. C'est-à-dire qu'il passait quelquefois des journées entières à songer, plongé et englouti comme un visionnaire dans les voluptés muettes de l'extase et du rayonnement intérieur. Il avait ainsi posé le problème de sa vie. Travailler le moins possible du travail matériel pour travailler le plus possible du travail impalpable. En d'autres termes, donner quelques heures à la vie réelle et jeter le reste dans l'infini. Il ne s'apercevait pas, croyant ne manquer de rien, que la contemplation ainsi comprise finit par être une des formes de la paresse, qu'il s'était contenté de dompter les premières nécessités de la vie et qu'il se reposait trop tôt. Il était évident que pour cette nature énergique et généreuse, ce ne pouvait être là qu'un état transitoire, et qu'au premier choc contre les inévitables complications de la destinée, Marius se réveillerait. En attendant, bien qu'il fût avocat, et quoi qu'en pensât le père Gillenormand, il ne plaidait pas, il ne plaidaillait même pas. La rêverie l'avait détourné de la plaidoirie. Hanter les avoués, suivre le palais, chercher des causes, ennuis, pourquoi faire? Il ne voyait aucune raison pour changer de gagne-pain. Cette librairie marchande et obscure avait fini par lui faire un travail sûr, un travail de peu de labeur, qui, comme nous venons de l'expliquer, lui suffisait. Un des libraires pour lesquels il travaillait, M. Magimel, je crois, lui avait offert de le prendre chez lui, de le bien loger, de lui fournir un travail régulier et de lui donner 1500 francs par an. Être bien logé, 1500 francs, sans doute. Mais renoncer à sa liberté, être un gagiste, une espèce d'homme de lettres commis. Dans la pensée de Marius, en acceptant, sa position devenait meilleure et pire en même temps. Il gagnait du bien-être et perdait de la dignité. C'était un malheur complet et beau qui se changeait en une gêne laide et ridicule. Quelque chose comme un aveugle qui deviendrait borgne. Il refusa. Marius vivait solitaire. Par ce goût qu'il avait de rester en dehors de tout, et aussi pour avoir été par trop effarouché, il n'était décidément pas entré dans le groupe présidé par Enjolras. On était resté bons camarades. On était prêt à s'entraider dans l'occasion, de toutes les façons possibles, mais rien de plus. Marius avait deux amis, un jeune, Courfeyrac, et un vieux, M. Mabeuf. Il penchait pour le vieux. D'abord, il lui devait la révolution qui s'était faite en lui. Il lui devait d'avoir connu et aimé son père. « Il m'a opéré de la cataracte, » disait-il. Certes, ce marguillier avait été décisif. Ce n'est pas pourtant que M. Mabeuf eût été dans cette occasion autre chose que l'agent calme et impassible de la Providence. Il avait éclairé Marius par hasard et sans le savoir, comme fait une chandelle que quelqu'un apporte. Il avait été la chandelle et non le quelqu'un. Quant à la révolution politique intérieure de Marius, M. Mabeuf était tout à fait incapable de la comprendre, de la vouloir et de la diriger. Comme on retrouvera plus tard M. Mabeuf, quelques mots ne sont pas inutiles. Chapitre 4. M. Mabeuf. Le jour où M. Mabeuf disait à Marius « Certainement, j'approuve les opinions politiques », il exprimait le véritable état de son esprit. Toutes les opinions politiques lui étaient indifférentes, et il les approuvait toutes sans distinguer, pour qu'elles le laissassent tranquille, comme les Grecs appelaient les furies les belles, les bonnes, les charmantes, les huménides. Monsieur Mabeuf avait pour opinion politique d'aimer passionnément les plantes, et surtout les livres. Il possédait, comme tout le monde, sa terminaison en « iste », sans laquelle personne n'aurait pu vivre en ce temps-là. Mais il n'était ni royaliste, ni bonapartiste, ni chartiste, ni orléaniste, ni anarchiste. Il était bouquiniste. Il ne comprenait pas que les hommes s'occupassent à se haïr à propos de billevesées comme la charte, la démocratie, la légitimité, la monarchie, la république, etc. Lorsqu'il y avait dans ce monde toutes sortes de mousses, d'herbes et d'arbustes qu'il pouvait regarder, et des tas d'in-folio et même d'in-32 qu'il pouvait feuilleter. Il se gardait fort d'être inutile. Avoir des livres ne l'empêchait pas de lire. Être botaniste ne l'empêchait pas d'être jardinier. Quand il avait connu Pontmercy, il y avait eu cette sympathie entre le colonel et lui, que ce que le colonel faisait pour les fleurs, il le faisait pour les fruits. Monsieur Mabeuf était parvenu à produire des poires de semis aussi savoureuses que les poires de Saint-Germain. C'est l'une de ces combinaisons qu'est née, à ce qu'il paraît, la mirabelle d'octobre, célèbre aujourd'hui, et non moins parfumée que la mirabelle d'été. Il allait à la messe, plutôt par douceur que par dévotion, et puis parce qu'aimant le visage des hommes, mais haïssant leur bruit, il ne les trouvait qu'à l'église, réunis et silencieux. Sentant qu'il fallait être quelque chose dans l'état, il avait choisi la carrière de marguillier. Du reste, il n'avait jamais réussi à aimer aucune femme, autant qu'un oignon de tulipe, ou aucun homme, autant qu'un Elzévir. Il avait depuis longtemps passé 60 ans, lorsqu'un jour quelqu'un lui demanda « Est-ce que vous ne vous êtes jamais marié ?»« J'ai oublié, » dit-il. Quand il lui arrivait parfois, à qui cela n'arrive-t-il pas, de dire « Oh, si j'étais riche !» Ce n'était pas en lorgnant une jeune fille, comme le père Gillenormand. C'était en contemplant un bouquin. Il vivait seul, avec une vieille gouvernante. Il était un peu chiragre, et quand il dormait, ses vieux doigts ankylosés par le rhumatisme s'arc-boutaient dans les plis des draps. Il avait fait et publié une flore des environs de Cauterets, avec planches coloriées, ouvrage assez estimé, dont il possédait les cuivres et qu'il vendait lui-même. On venait 2 ou 3 fois par jour sonner chez lui, rue Mézières, pour cela. Il en tirait bien 2 000 francs par an. C'était à peu près là toute sa fortune. Quoique pauvre, il avait eu le talent de se faire, à force de patience, de privation et de temps, une collection précieuse d'exemplaires rares en tout genre. Il ne sortait jamais qu'avec un livre sous le bras et il revenait souvent avec 2. L'unique décoration des 4 chambres au rez-de-chaussée, qui, avec un petit jardin, composait son logis, c'était des herbiers encadrés et des gravures de vieux maîtres. La vue d'un sabre ou d'un fusil le glaçait. De sa vie, il n'avait approché d'un canon, même aux Invalides. Il avait un estomac passable, un frère curé, les cheveux tout blancs, plus de dents, ni dans la bouche, ni dans l'esprit. Un tremblement de tout le corps, l'accent picard, un rire enfantin, l'effroi facile, et l'air d'un vieux mouton. Avec cela, point d'autre amitié ou d'autre habitude parmi les vivants qu'un vieux libraire de la Porte Saint-Jacques, appelé Royol. Il avait pour rêve de naturaliser l'indigo en France. Sa servante était, elle aussi, une variété de l'innocence. La pauvre bonne vieille femme était vierge. Sultan, son matou, qui eût pu miauler le miserere d'Allégri à la chapelle Sixtine, avait rempli son cœur et suffisait à la quantité de passion qui était en elle. aucun de ses rêves n'était allé jusqu'à l'homme. Elle n'avait jamais pu franchir son chat. Elle avait, comme lui, des moustaches. Sa gloire était dans ses bonnets, toujours blancs. Elle passait son temps le dimanche après la messe à compter son linge dans sa malle et à étaler sur son lit des robes en pièces qu'elle achetait et qu'elle ne faisait jamais faire. Elle savait lire. Monsieur Mabeuf l'avait surnommée la mère Plutarque. Monsieur Mabeuf avait pris Marius en gré, parce que Marius, étant jeune et doux, réchauffait sa vieillesse sans effaroucher sa timidité. La jeunesse, avec la douceur, fait au vieillard l'effet du soleil sans le vent. Quand Marius était saturé de gloire militaire, de poudre à canon, de marches et de contre-marches, et de toutes ces prodigieuses batailles où son père avait donné et reçu de si grands coups de sabre, il allait voir Monsieur Mabeuf, et Monsieur Mabeuf lui parlait du héros au point de vue des fleurs. Vers 1830, son frère, le curé, était mort, et presque tout de suite, comme lorsque la nuit vient, tout l'horizon s'était assombri pour Monsieur Mabeuf. Une faillite de notaire lui enleva une somme de 10 000 francs, qui était tout ce qu'il possédait du chef de son frère et du sien. La révolution de juillet amena une crise dans la librairie. En temps de gêne, la première chose qui ne se vend pas, c'est une flore. La flore des environs de Cauterets s'arrêta court. Des semaines s'écoulaient sans un acheteur. Quelquefois, M. Mabeuf tressaillait à un coup de sonnette. « Monsieur, lui disait tristement à la mère Plutarque, c'est le porteur d'eau. » Bref, un jour, M. Mabeuf quitta la rue Mézières, abdiqua les fonctions de marguillier, renonça à Saint-Sulpice, vendit une partie, non de ses livres, mais de ses estampes, ce à quoi il tenait le moins, et s'alla installer dans une petite maison du boulevard Montparnasse, où du reste, il ne demeura qu'un trimestre. Pour deux raisons. Premièrement, le rez-de-chaussée et le jardin coûtaient 300 francs, et il n'osait pas mettre plus de 200 francs à son loyer. Deuxièmement, étant voisin du tir Fatou, il entendait toute la journée des coups de pistolet, ce qui lui était insupportable. Il emporta sa flore, ses cuivres, ses herbiers, ses portefeuilles et ses livres, et s'établit près de la salpêtrière, dans une espèce de chaumière du village d'Austerlitz, où il avait pour 50 écus par an 3 chambres et un jardin clos d'une haie avec puits. Il profita de ce déménagement pour vendre presque tous ses meubles. Le jour de son entrée dans ce nouveau logis, il fut très gai et cloua lui-même les clous pour accrocher les gravures et les herbiers. Il piocha son jardin le reste de la journée. Et le soir, voyant que la mère Plutarque avait l'air morne et songeait, il lui frappa sur l'épaule et lui dit en souriant « Bah, nous avons l'indigo !» Deux seuls visiteurs, le libraire de la Porte Saint-Jacques et Marius, étaient admis à le voir dans sa chaumière d'Austerlitz, nom tapageur qui lui était, pour tout dire, assez désagréable. Du reste, comme nous venons de l'indiquer, les cerveaux absorbés dans une sagesse ou dans une folie, ou ce qui arrive souvent dans les deux à la fois, ne sont que très lentement perméables aux choses de la vie. Leur propre destin leur est lointain. Il résulte de ces concentrations-là une passivité qui, si elle était raisonnée, ressemblerait à la philosophie. On décline, on descend, on s'écoule, on s'écroule même, sans trop s'en apercevoir. Cela finit toujours, il est vrai, par un réveil, mais tardif. En attendant, il semble qu'on soit neutre dans le jeu qui se joue entre notre bonheur et notre malheur. On est l'enjeu et l'on regarde la partie avec indifférence. C'est ainsi qu'à travers cet obscurcissement qui se faisait autour de lui, toutes ses espérances s'éteignant l'une après l'autre, M. Mabeuf était resté serein, un peu puérilement, mais très profondément. ses habitudes d'esprit avaient le va-et-vient d'un pendule. Une fois monté par une illusion, il allait très longtemps, même quand l'illusion avait disparu. Une horloge ne s'arrête pas court au moment précis où l'on en perd la clé. Monsieur Mabeuf avait des plaisirs innocents. Ses plaisirs étaient peu coûteux et inattendus. Le moindre hasard les lui fournissait. Un jour, la mère Plutarque lisait un roman dans un coin de la chambre. Elle lisait haut, trouvant qu'elle comprenait mieux ainsi. Lire haut, c'est s'affirmer à soi-même sa lecture. Il y a des gens qui lisent très haut et qui ont l'air de se donner leur parole d'honneur de ce qu'ils lisent. La mère Plutarque lisait avec cette énergie-là le roman qu'elle tenait à la main. Monsieur Mabeuf entendait sans écouter. Tout en lisant, la mère Plutarque arriva à cette phrase. Il était question d'un officier de dragon et d'une belle. La belle Bouddha et le dragon... Ici, elle s'interrompit pour essuyer ses lunettes. Bouddha et le dragon, reprit à mi-voix Monsieur Mabeuf. Oui, c'est vrai, il y avait un dragon qui, du fond de sa caverne, jetait des flammes par la gueule et brûlait le ciel. Plusieurs étoiles avaient déjà été incendiées par ce monstre, qui en outre avait des griffes de tigre. Bouddha alla dans son antre et réussit à convertir le dragon. C'est un bon livre que vous lisez là, mère Plutarque. Il n'y a pas de plus belle légende. Et Monsieur Mabeuf tomba dans une rêverie délicieuse. Chapitre 5. Pauvreté, bonne voisine de misère. Marius avait du goût pour ce vieillard candide, qui se voyait lentement saisi par l'indigence et qui arrivait à s'étonner peu à peu, sans pourtant s'attrister encore. Marius rencontrait Courfeyrac et cherchait M. Mabeuf. Fort rarement pourtant, une ou deux fois par mois, tout au plus. Le plaisir de Marius était de faire de longues promenades seules sur les boulevards extérieurs, ou au Champ de Mars, ou dans les allées les moins fréquentées du Luxembourg. Il passait quelquefois une demi-journée à regarder le jardin d'un maraîcher, les carrés de salade, les poules dans le fumier et le cheval tournant la roue de la Noria. Les passants le considéraient avec surprise et quelques-uns lui trouvaient une mise suspecte et une mine sinistre. Ce n'était qu'un jeune homme pauvre, rêvant sans objet. C'est dans une de ses promenades qu'il avait découvert la masure Gorbeau. Et l'isolement et le bon marché le tentant, il s'y était logé. On ne l'y connaissait que sous le nom de Monsieur Marius. Quelques-uns des anciens généraux ou des anciens camarades de son père l'avaient invité, quand ils le connurent, à les venir voir. Marius n'avait point refusé, c'était des occasions de parler de son père. Il allait ainsi de temps en temps chez le comte Pajol, chez le général Bellavaine, chez le général Fririon aux Invalides. On y faisait de la musique, on y dansait. Ces soirs-là, Marius mettait son habit neuf. Mais il n'allait jamais à ces soirées ni à ces bals que les jours où il gelait à Pierrefendre, car il ne pouvait payer une voiture et il ne voulait arriver qu'avec des bottes comme des miroirs. Il disait quelquefois, mais sans amertume, « Les hommes sont ainsi faits, que dans un salon, vous pouvez être crotté partout, excepté sur les souliers. On ne vous demande là, pour vous bien accueillir, qu'une chose irréprochable. La conscience ? Non, les bottes. » Toutes les passions, autres celles du cœur, se dissipent dans la rêverie. Les fièvres politiques de Marius s'y étaient évanouies. La révolution de 1830, en le satisfaisant, et en le calmant, y avait aidé. Il était resté le même, aux colères près. Il avait toujours les mêmes opinions, seulement elles s'étaient attendries. À proprement parler, il n'avait plus d'opinion. Il avait des sympathies. De quel parti était-il ? Du parti de l'humanité. Dans l'humanité, il choisissait la France. Dans la nation, il choisissait le peuple. Dans le peuple, il choisissait la femme. C'était là, surtout, que sa pitié allait. Maintenant, il préférait une idée à un fait, un poète à un héros. Et il admirait plus encore un livre comme Job qu'un événement comme Marengo. Et puis, quand, après une journée de méditation, il s'en revenait le soir par les boulevards, et qu'à travers les branches des arbres, il apercevait l'espace sans fond, les lueurs sans nom, l'abîme, l'ombre, le mystère, tout ce qui n'est qu'humain lui semblait bien petit. Il croyait être, et il était peut-être en effet, arrivé au vrai de la vie et de la philosophie humaine, et il avait fini par ne plus guère regarder que le ciel, seule chose que la vérité puisse voir du fond de son puits. Cela ne l'empêchait pas de multiplier les plans, les combinaisons, les échafaudages, les projets d'avenir. Dans cet état de rêverie, un œil qui eût regardé au-dedans de Marius eût été ébloui de la pureté de cette âme. En effet, s'il était donné à nos yeux de chair de voir dans la conscience d'autrui, on jugerait bien plus sûrement un homme d'après ce qu'il rêve que d'après ce qu'il pense. Il y a de la volonté dans la pensée, il n'y en a pas dans le rêve. Le rêve, qui est tout spontané, prend et garde, même dans le gigantesque et l'idéal, la figure de notre esprit. Rien ne sort plus directement et plus sincèrement du fond même de notre âme que nos aspirations irréfléchies et démesurées vers les splendeurs de la destinée. Dans ces aspirations, bien plus que dans les idées composées, raisonnées et coordonnées, on peut retrouver le vrai caractère de chaque homme. Nos chimères sont ce qui nous ressemble le mieux. Chacun rêve l'inconnu et l'impossible selon sa nature. Vers le milieu de cette année 1831, la vieille qui servait Marius lui conta qu'on allait mettre à la porte ses voisins, le misérable ménage Jondrette. Marius, qui passait presque toutes ses journées dehors, savait à peine qu'il eut des voisins. « Pourquoi les renvoie-t-on » dit-il. « Parce qu'ils ne paient pas leur loyer, ils doivent deux termes. »« Combien est-ce ?»« 20 francs, dit la vieille. » Marius avait 30 francs en réserve dans un tiroir. « Tenez, dit-il à la vieille, voilà 25 francs. Payez pour ces pauvres gens, donnez-leur 5 francs et ne dites pas que c'est moi. » Chapitre 6. Le remplaçant. Le hasard fit que le régiment dont était le lieutenant Théodule vint tenir garnison à Paris. Ceci fut l'occasion d'une deuxième idée pour la tante Gillenormand. Elle avait, une première fois, imaginé de faire surveiller Marius par Théodule. Elle complota de faire succéder Théodule à Marius. À toute aventure, et pour le cas où le grand-père aurait le vague besoin d'un jeune visage dans la maison, ces rayons d'aurore sont quelquefois doux aux ruines. Il était expédient de trouver un autre Marius. « Soit, pensa-t-elle, c'est un simple erratum comme j'en vois dans les livres. Nul. Un petit-neveu est là à peu près d'un petit-fils. À défaut d'un avocat, on prend un lancier. » Un matin, que M. Gillenormand était en train de lire quelque chose comme « La quotidienne », sa fille entra et lui dit de sa voix la plus douce, car il s'agissait de son favori, « Mon père, Théodule va venir ce matin vous présenter ses respects. »«
Qui ça, Théodule ?»«
Votre petit-neveu. »«
Ah !» fit le grand-père. Puis il se remit à lire, ne songea plus au petit-neveu qui n'était qu'un Théodule quelconque et ne tarda pas à avoir beaucoup d'humeur, ce qui lui arrivait presque toujours quand il lisait. La feuille qu'il tenait, royaliste d'ailleurs, cela va de soi, annonçait pour le lendemain, sans aménité aucune, un des petits événements quotidiens du Paris d'alors.
que les élèves des écoles de droit et de médecine devaient se réunir sur la place du Panthéon à midi pour délibérer. Il s'agissait d'une des questions du moment, de l'artillerie de la garde nationale et d'un conflit entre le ministre de la guerre et la milice citoyenne au sujet des canons parqués dans la cour du Louvre. Les étudiants devaient délibérer là-dessus. Il n'en fallait pas beaucoup plus pour gonfler M. Gillenormand. Il songea à Marius, qui était étudiant, et qui, probablement, irait, comme les autres, délibérer à midi sur la place du Panthéon. Comme il faisait ce songe pénible, le lieutenant Théodule entra, vêtu en bourgeois, ce qui était habile, et discrètement introduit par Mademoiselle Gillenormand. Le lancier avait fait ce raisonnement. Le vieux druide n'a pas tout placé en viager. Cela vaut bien qu'on se déguise en Pékin de temps en temps. Mademoiselle Gillenormand dit haut à son père : Théodule, votre petit-neveu. Et bas au lieutenant : approuve tout. Et se retira. Le lieutenant, peu accoutumé à des rencontres si vénérables, balbutia avec quelque timidité : bonjour, mon oncle. Et fit un salut mixte, composé de l'ébauche involontaire et machinale du salut militaire, achevé en salut bourgeois. Ah, c'est vous. C'est bien, asseyez-vous, dit l'aïeul. Cela dit, il oublia parfaitement le lancier. Théodule s'assit et M. Gillenormand se leva. M. Gillenormand se mit à marcher de long en large, les mains dans ses poches, parlant tout haut, et tourmentant avec ses vieux doigts irrités les deux montres qu'il avait dans ses deux goussets. « Ce tas de morveux, ça se convoque sur la place du Panthéon. Vertu de ma vie, des galopins qui étaient hier en nourrice, si on leur pressait le nez, il en sortirait du lait. Et ça délibère demain à midi. Où va-t-on? Où va-t-on? Il est clair qu'on va à l'abîme. C'est là que nous ont conduits les descamisados. » L'artillerie citoyenne, délibérer sur l'artillerie citoyenne, s'en aller jaboter en plein air sur les pétarades de la garde nationale. Et avec qui vont-ils se trouver là? Voyez un peu où mène le jacobinisme. Je parie tout ce qu'on voudra, un million contre un fichtre, qu'il n'y aura là que des repris de justice et des forçats libérés. Les républicains et les galériens, ça ne fait qu'un nez et qu'un mouchoir. Carnot disait: « Où veux-tu que j'aille, traître ?» Fouché répondait « Où tu voudras, imbécile ? » Voilà ce que c'est que les républicains. « C'est juste, » dit Théodule. M. Gillenormand tourna la tête à demi, vit Théodule et continua. « Quand on pense que ce drôle a eu la scélératesse de se faire carbonaro, pourquoi as-tu quitté ma maison pour t'aller faire républicain ? Psst. D'abord, le peuple n'en veut pas de ta république. Il n'en veut pas. Il a du bon sens. Il sait bien qu'il y a toujours eu des rois et qu'il y en aura toujours. Il sait bien que le peuple, après tout, ce n'est que le peuple. Il s'en burle de ta république. Entends-tu, crétin? Et ça, c'est horrible, ce caprice-là. S'amouracher du père Duchesne, faire les yeux doux à la guillotine, chanter des romances et jouer de la guitare sous le balcon de 93. C'est à cracher sur tous ces jeunes gens-là, tant ils sont bêtes. Ils en sont tous là. Pas un n'échappe. Il suffit de respirer l'air qui passe dans la rue pour être insensé. Le 19e siècle est du poison. Le premier polisson venu laisse pousser sa barbe de bouc, se croit un drôle pour de vrai, et vous plante là les vieux parents. C'est républicain, c'est romantique. Qu'est-ce que c'est que ça, romantique ? Faites-moi l'amitié de me dire ce que c'est que ça. Toutes les folies possibles. Il y a un an, ça vous allait à Hernani. Je vous demande un peu. Hernani. Des antithèses, des abominations qui ne sont pas même écrites en français. Et puis, on a des canons dans la cour du Louvre. Tels sont les brigandages de ce temps-ci. Vous avez raison, mon oncle, dit Théodule. Monsieur Gillenormand reprit. Des canons dans la cour du muséum. Pourquoi faire? Canon, que me veux-tu?
Vous voulez donc mitrailler l'Apollon du Belvédère? Qu'est-ce que les gargous sont à faire avec la Vénus de Médicis? Oh, ces jeunes gens d'à présent, tous des chenapans! Quel pas grand-chose que leur Benjamin Constant! Et ceux qui ne sont pas des scélérats sont des dadais! Ils font tout ce qu'ils peuvent pour être laids. Ils sont mal habillés, ils ont peur des femmes. Ils ont autour des cotillons un air de mendier qui fait éclater de rire les jeannetons. Ma parole d'honneur, on dirait les pauvres honteux de l'amour. Ils sont difformes et ils se complètent en étant stupides. Ils répètent les calembours de Tiercelin et de Potier. Ils ont des habits sacs, des gilets de palefrenier, des chemises de grosse toile, des pantalons de gros drap, des bottes de gros cuir, et le ramage ressemble au plumage. On pourrait se servir de leur jargon pour ressembler leurs savates. Et toute cette inepte marmaille vous a des opinions politiques. Il devrait être sévèrement défendu d'avoir des opinions politiques. Ils fabriquent des systèmes, ils refont la société, ils démolissent la monarchie, ils flanquent par terre toutes les lois, ils mettent le grenier à la place de la cave et mon portier à la place du roi. Ils bousculent l'Europe de fond en comble, ils rebâtissent le monde, et ils ont pour bonne fortune de regarder sournoisement les jambes des blanchisseuses qui remontent dans leur charrette. Ah, Marius, ah, Gueusard, allez vociférer en place publique, discutez. Débattre, prendre des mesures. Ils appellent cela des mesures, juste Dieu. Le désordre se rapetisse et devient niais. J'ai vu le chaos, je vois le gâchis. Des écoliers délibérés sur la garde nationale, cela ne se verrait pas chez les Ojibwas et chez les Cadodaches. Les sauvages qui vont tout nus, la caboche coiffée comme un volant de raquette, avec une massue à la patte, sont moins brutes que ces bacheliers-là. Des marmousés de 4 sous, ça fait les entendus et les jordonne, ça délibère et ratiocine. C'est la fin du monde. C'est évidemment la fin de ce misérable globe détraqué. Il fallait un hoquet final, la France le pousse. Délibéré, mais drôle. Ces choses-là arriveront tant qu'ils iront lire les journaux sous les arcades de l'Odéon. Cela leur coûte un sou, et leur bon sens, et leur intelligence, et leur cœur, et leur âme, et leur esprit. On sort de là et l'on fiche le camp de chez sa famille. Tous les journaux sont de la peste, tous, même le drapeau blanc. Au fond, Martainville était un jacobin. Ah, juste ciel, tu pourras te vanter d'avoir désespéré ton grand-père, toi. C'est évident, dit Théodule. Et profitant de ce que M. Gillenormand reprenait haleine, le lancier ajouta magistralement « Il ne devrait pas y avoir d'autre journal que le Moniteur et d'autres livres que l'annuaire militaire. » M. Gillenormand poursuivit « C'est comme leur sieyès, un régicide aboutissant à un sénateur. Car c'est toujours par là qu'ils finissent. On se balafre avec le tutoiement citoyen pour arriver à se faire dire « Monsieur le comte ».« Monsieur le comte, gros comme le bras !» des assommeurs de septembre. Le philosophe Seyès. Je me rends cette justice que je n'ai jamais fait plus de cas des philosophies de tous ces philosophes-là que des lunettes du grimacier de Tivoli. J'ai vu un jour les sénateurs passer sur le quai Malaquais, en manteau de velours violet, semé d'abeilles, avec des chapeaux à la Henri IV. Ils étaient hideux. On eût dit les singes de la cour du tigre. Citoyens, je vous déclare que votre progrès est une folie, que votre humanité est un rêve, que votre révolution est un crime, que votre république est un monstre, que votre jeune France pucelle sort du lupanar. Et je vous le soutiens à tous, qui que vous soyez, fussiez-vous publiciste, fussiez-vous économiste, fussiez-vous légiste, fussiez-vous plus connaisseur en liberté, en égalité et en fraternité que le couperet de la guillotine. Je vous signifie cela, mes bons hommes. Parbleu ! Cria le lieutenant. Voilà qui est admirablement vrai. M. Gillenormand interrompit un geste qu'il avait commencé, se retourna, regarda fixement le lancier Théodule entre les deux yeux et lui dit Vous êtes un imbécile.